Hein? Bonsoir à tous. On est content, je suis content de retrouver mon micro. Il y a plein de gens qui sont dû manger mon micro. Pardon. On va faire le numéro 33, vers toi mon Dieu. Toi, mon Dieu, monte un chant d'amour et de joie immense, je te bénirai en tout temps. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. C'est toi, mon Dieu, qui créa la terre et aussi le ciel, tu les as remplis de merveilles. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Et toi, mon Dieu, tu n'as pour nous que des projets de paix et tu ne veux que le meilleur. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci. On va chanter « Je porte dans mon cœur » le 63, et puis ensuite je prierai, et tout de suite après la prière, nous entendrons un témoignage, le numéro 63. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce soir pour ta présence parmi nous. Nous sommes sensibles à ta présence, nous savons que tu es tous les jours avec nous, tout le temps, sans cesse, et nous te remercions, Seigneur Jésus, de bien vouloir ouvrir nos cœurs par ton esprit, afin que ta parole soit bien comprise ce soir. Bien comprise ce soir, et que nous puissions nous réjouir et de t'appartenir et de marcher, d'aller de l'avant avec toi. Merci Seigneur de nous donner un temps de repos pour, dans nos pensées, pour que nous puissions écouter ta parole calmement, avec la paix, avec le secours de ton esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu fais cela dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes cette paix dont nous avons tellement besoin, dans le nom de Jésus. Amen.
Donc, c'était pour raconter ce qui s'est passé hier. Donc, hier matin, on est parti avec Dominique au travail à 5h15, comme d'habitude. Et j'avais vraiment très mal au dos, je m'étais réveillé dans un état pas possible. Et je me suis dit, je vais aller travailler quand même et on verra bien comment ça se passe. Donc on a fait nos 150 km. Arrivé à Évry, j'étais vraiment mal, je pouvais pas tenir et tout. Donc j'ai prévenu tous mes collègues, etc. Je suis rentré, j'ai refait 150 km dans l'autre sens. Et j'étais voir Navo. Donc il m'a arrêté une semaine parce que j'ai un lumbago. Donc voilà quoi, il faut du repos et s'arrêter. Et donc le soir, avec Mélo, donc on monte dans la chambre et je lui expliquais qu'à chaque fois je montais un escalier avec la jambe droite, ça m'écrasait carrément dans le dos et ça me faisait mal. Parce que j'ai une jambe aussi plus longue que l'autre. Et à chaque fois que je prenais celle qui était plus longue, ça m'écrasait un peu le dos. Et Mélo, elle me dit, on va voir papa et il va prier pour toi. Je dis, ouais, c'est une très très bonne idée. Donc Michel arrive et il me fait asseoir sur une chaise avec Nicolas. Il me fait asseoir sur une chaise et je tends mes jambes, comme vous l'avez vu déjà faire pour les jambes voilà, en Afrique. Donc je tends mes jambes à l'horizontale et il prie pour que la jambe plus courte revienne au même niveau que la plus longue. Et là, Michel prie, Nicolas prie, et je sens ma jambe qui pousse un peu, et petit à petit, et ça a duré comme ça, je sais pas, une ou deux minutes, mais c'est vraiment une sensation bizarre, quoi. C'est quoi, c'est un miracle, c'est extraordinaire, on sent vraiment que la jambe elle se pousse vers l'avant, et c'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, il prie pour mon dos. Et voilà, ça s'arrête. Il me dit alors, je me lève, plus de douleur, plus rien, je sens plus rien. je baisse, je mets les mains au sol, je fais des mouvements, plus rien. Voilà, le Seigneur m'a guéri. Amen.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui fait ces choses. Amen. Mais il a besoin de nos mains pour le faire, il a besoin de nos prières, de notre amour. Alors voilà, c'est bien, merci pour ton témoignage, que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez cela sur Internet. Nous pouvons prier aussi pour vous. Nous ne prenons pas d'argent pour cela, nous faisons tout gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus a dit, priez les uns pour les autres et c'est pourquoi nous prions. Nous allons chanter le 71 maintenant. Pardon. Bien, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, chez nous, nous croyons dans la parole de Dieu, la Bible. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent surtout sur Internet. Nous croyons dans la parole de Dieu, la Bible. Nous croyons qu'elle est infaillible, nous croyons qu'elle est parfaite. Et s'il y semble parfois à certaines personnes, s'il leur semble trouver des contradictions, la contradiction ne se trouve pas dans la parole de Dieu, mais en nous-mêmes. C'est à nous de chercher qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ça fait des années que nous l'étudions, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons compris beaucoup de choses. Et il n'y a pas longtemps, nous avons découvert que un évangile avait été perdu, a été caché. Il a été retrouvé en 1945 à Nag Hammadi. C'est l'évangile de Thomas. L'apôtre Paul cite l'évangile de Thomas dans sa lettre aux Corinthiens qui a été écrite en l'an 55. En l'an 55, il n'y avait aucun autre évangile. Il n'y avait pas Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Ces évangiles ont été écrits après l'an 80. Donc, le seul évangile qui existait du temps de l'apôtre Paul, c'était l'évangile de Thomas. Cet évangile a été rejeté au concile de, je crois, Nicée, en 325, parce que on disait, voilà, cet évangile, c'est surtout les gnostiques qui s'en servent. Vous savez que la gnose, c'est pas une chose tout à fait recommandable quand on veut vraiment croire en Jésus ou Jésus de la Bible. Et donc, nous croyons dans le Jésus de la Bible, mais nous croyons aussi dans l'évangile de Thomas. Les gnostiques s'en sont servis, c'est pas la faute. Et nous ne disons pas que maintenant l'évangile de Thomas est aussi véritable que l'évangile, que les quatre évangiles que nous avons dans la Bible, mais nous disons qu'en tout cas ils ne nous contredisent pas, nous n'avons pas trouvé de contradiction. Il peut sembler que de temps en temps il y a des choses qui soient étranges, mais elles sont explicables au travers des Saintes Écritures. Ça c'est oui et amen. Bon, vous pouvez en douter, vous qui ne nous connaissez pas bien, mais prenez contact avec nous, écrivez-nous à l'adresse là sur Internet, vous pouvez nous trouver et on vous répondra. Ce sera une joie de vous expliquer toutes ces choses. Vous pouvez très bien vivre sans. Ce qui compte, c'est déjà de mettre en pratique ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Mais nous aimons bien aussi, nous ne voulons pas être sectaires et nous fermer à tout ce qui existe. Donc ce soir, nous allons étudier le dernier logion, c'est-à-dire le dernier chapitre de l'évangile de Thomas, puisque nous avons déjà beaucoup, beaucoup étudié là-dedans. Ça fait des mois et des mois. Maintenant, nous en sommes au dernier, le chapitre 114. Logion 114. Je vous demanderai de vous mettre debout. Enfin, vous qui écoutez Internet, vous n'êtes pas obligé, surtout si... Non, ne vous mettez pas debout. Il n'y a aucune obligation, aucune loi. Simplement, chez nous, on aime bien faire ça. Je lis. Simon-Pierre leur disait, que Marie sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répondit, voici que je la guiderai et je la ferai homme. Elle deviendra, elle aussi, un souffle vivant semblable à vous, homme. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. Amen. Dans cette version-là, ce n'est pas très très clair. J'ai étudié dans une autre version de l'évangile de Thomas, parce qu'il en existe plusieurs. On voit que Pierre s'adresse aux disciples, il ne s'adresse pas à Jésus. Il dit pas, il n'oserait jamais dire à Jésus, écoute, il faut la virer, elle est trop. Il dit aux autres disciples, mais Jésus l'entend. Et certains pourraient trouver les paroles de Pierre d'une misogynie incroyable. Eh bien, elle n'est que ce que la loi juive a fait de cet homme, ce que la loi juive avait fait de ces hommes à l'époque. C'est vrai, une bande de gros machos, qui finalement, c'est ceux qui enseignaient ces choses-là et qui les propageaient, finalement, c'est eux qui ont misérablement, d'une façon atroce, crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas antisémites pour autant, mais il faut reconnaître une chose, leur enseignement, c'est imbuvable. Moi, je suis content d'être un homme. D'ailleurs, eux-mêmes le disent tous les matins en se levant. Mon Dieu, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée, mais merci de ce que tu as fait de moi un homme. Ils sont très contents, n'est-ce pas, d'être des hommes. Ils ne voudraient surtout pas être des femmes, parce qu'avec cette loi, ce n'est pas la loi de Dieu qui n'est pas bonne, c'est ce qu'ils ont rajouté. Ils en ont rajouté. Ils ont mis la femme sous l'esclavage d'une façon incroyable. Ce n'est pas de la misogynie, là. C'est de la folie. C'est de la folie. Et vous croyez que ça n'est pas rentré dans l'Église ? Bien sûr que c'est rentré dans l'Église. Bien sûr que c'est rentré dans l'Église. Maintenant, ça commence un peu à bouger, mais je crois que Jésus reviendra avant que les femmes aient réussi à prendre la place que normalement elles devraient avoir dans l'Église, parce que c'est presque une cause perdue que de vouloir... Mais les femmes, relevez la tête. Amen. Relevez la tête. Ne vous laissez pas faire comme ça. En tout cas, là, Jésus s'y prend très bien avec Pierre. Quand Jésus intervient devant un monceau de bêtises pareil, eh bien, il fait tout pour se faire comprendre. Et pour se faire comprendre de Pierre, eh bien, Jésus va descendre à son niveau. Il va descendre à son niveau. Au niveau de ses principes, au niveau de ses préjugés misogynes. Et Jésus dit donc à Pierre, je la tirerai afin de la faire mal. Voilà, vous êtes tout content. Hein, je la tirerai afin de la faire mal. C'est ainsi que Jésus nous donne un exemple quand il parle comme ça à Pierre. C'est une leçon qu'il nous donne. Me trouvez-vous, moi, misogyne ? Moi, Michel Janton, me trouvez-vous misogyne ? Eh bien, c'est parce que je parle à un misogyne. Me trouvez-vous insensé ? C'est parce que je suis en train de parler à un insensé. C'est tout à fait le message de Jésus. Ressemble aux Grecs pour attirer les Grecs. Ressemble aux Juifs pour attirer les Juifs. Ressemble même aux faibles pour attirer des faibles. 1 Corinthiens 9, 22. Oui ou non ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie, faible ? Je vous laisse imaginer. Un faible, c'est une personne impuissante devant le péché. C'est une personne indisciplinée. C'est une personne sur laquelle l'esprit de la parole n'a pas d'emprise. C'est une personne qui est obligée d'avoir des lois strictes pour arriver à se discipliner un peu, mais qui, à la première poussée hormonale un peu trop forte, se sent très mâle ou très femelle. La chair. Ce logion ne se trouve pas être le dernier par hasard. Ce texte, il est là pour nous faire remarquer que Marie, une femme, occupe de plein droit, dans le groupe, une place de disciple à part entière. Sinon, Pierre ne se serait pas révolté comme ça. C'est pour ça que Pierre se révolte. Il veut qu'elle sorte du groupe. Pourquoi ? Oh, si vous écoutez Pierre, il a certainement des très bonnes raisons. Surtout pas des raisons personnelles. Non, non, non. Ce qu'il veut, lui, c'est sauver le groupe. Hein ? On est toujours le saint dans l'Église. On peut être le plus grossier misogyne du monde. On se sent quand même très saint et très bien. C'est pas quoi, dans notre groupe, qui est déjà si mal vu par les religieux, si en plus, on accepte des bonnes femmes qui ont tant de droits que nous, mais c'est inadmissible, qu'est-ce qu'on va dire de nous, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi, Jésus, ton ministère est foutu, mais on renvoie cette femme, c'est pas possible, où est-ce qu'on va ? Souvenez-vous du Logion 21, je vais vous le lire. Logion 21. Marie demande à Jésus, elle est en particulier avec lui, « Tes disciples, à quoi ressemblent-ils ? » Il répondit, « Ils ressemblent à des gamins qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas. » Marie savait ce que Jésus pensait de ces bonhommes machos, fiers, n'est-ce pas ? C'est Marie qui en particulier demande ça à Jésus. Elle avait donc une possibilité, comme n'importe qui, d'avoir des moments tranquilles avec Jésus pour approfondir les choses. des petits garçons, des petits gamins. Quand on regarde, pourquoi Jésus dit des petits garçons et des petits gamins? Qu'est-ce que c'est un petit gamin? Un petit gamin, un petit garçon normal, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que c'est normal, tu veux dire quoi normal? Un petit garçon normal, il n'aime pas jouer avec les filles. Vrai ou faux? Il aime jouer qu'avec les garçons, il n'aime pas jouer avec les filles. Ce n'est que quand sa sexualité se réveille qu'il commence à trouver intéressant de tourner autour des filles. C'est la réalité. Et Jésus dit, c'est une bande de gamins, une bande de petits garçons, bon, voilà, qui sont dans un champ qui ne leur appartient pas. Eh bien, Jésus dit à Pierre, ce jour-là, tout ce que Pierre va comprendre par la suite, par le Saint-Esprit, par l'expérience et toutes ces choses, que viendra un temps où il n'y aura plus ni homme ni femme. En fait, dans l'Église, dans son Église, dans l'Église de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, les femmes consacrées sont mâles. Dans le sens exact du terme, c'est-à-dire mâle comme Dieu l'est, semblable à Dieu. Un mâle, en réalité, dans l'idée de Dieu au départ, au commencement, un mâle c'est une créature animale. Et une femelle c'est une créature animale. C'était bon pour les animaux, c'était bon même à la limite pour les plantes. Au commencement, l'homme, Adam, n'était pas un mâle tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ève n'était pas, Ève ressemblait, Ève était semblable à l'homme, était semblable à son homme, était semblable à Adam. Ça veut dire semblable. Est-ce que Michou est semblable à moi? Non. Là, elle était semblable. Si j'étais Adam et si Michou était Ève, on serait semblable. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu les créa et leur donna à tous les deux le nom d'homme. C'est pas, il n'a pas fait d'eux des humains, comme certains essaient de nous faire croire. Il leur a donné le nom d'homme. Il faut prendre les mots tels qu'ils existent. Le nom, c'est comme quand on dit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas Père, c'est pas Fils, c'est pas Saint-Esprit. Le nom, c'est Jésus. Amen. Eh bien là, Dieu donna à Adam et à Ève, à tous les deux, le nom d'homme. Pas d'humain, d'homme. Genèse 5, 1. Parce qu'ils étaient semblables. Frères et sœurs, quand vous cueillez les fruits de la révélation biblique, le Saint-Esprit en vous vous conduit à l'essentiel. Non pas à ce qui se voit, qui peut paraître essentiel. Non pas à ce qui se ressent, ce qui peut se toucher, à ce qui peut s'entendre, mais à ce qui est dans la réalité invisible. Combien de fois la Bible nous dit « Ne regardez pas au visible, regardez à l'invisible. » Un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, c'est une nouvelle créature, dit Jésus. C'est-à-dire, ni homme, ni femme. Bon, on est encore dans ce monde. On est encore dans ce monde. Mais un homme, écoutez bien et pensez-y. Un homme ne deviendra jamais un plat de lentilles pour une femme née de nouveau. Une femme ne deviendra jamais un plat de lentilles pour un homme né de nouveau. Tout se fait dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, selon les Écritures, selon ce que la loi qui a été donnée à cause de la chute nous permet, nous autorise. Mais sans la passion de la chair qui éloigne de Dieu, qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Alors, on vit encore dans la chair? Mais c'est par notre esprit humain, cet esprit qui est venu habiter notre corps, par notre esprit, que nous sommes appelés à faire mourir et à maintenir dans la mort les membres qui s'opposent au Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. La malédiction, en fait, c'est la dualité. C'est la connaissance du bien et du mal par les cinq sens. C'est le Saint-Esprit qui est mis, c'est l'esprit humain, notre esprit, qui vient de Dieu, qui est mis sous le boisseau, qui est éteint, qui ne connaît plus. Et maintenant, on ne connaît que par les cinq sens, le haut, le bas, la gauche, la droite, le bien, le mal, l'homme, la femme. En cherchant plus loin dans Thomas, on trouve que, ça c'est au Logion 61, il y avait une certaine Salomé qui a dit à Jésus, « Je suis ta disciple ». Pas un mot pour dire disciple féminin, c'est un petit peu moins que masculin. Non, 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 je suis ta disciple. Les évangiles canoniques, Marc, Luc, Jean et Matthieu, ne parlent pas de cette femme. Cependant, nous savons que des femmes suivaient Jésus. Qui peut suivre Jésus sinon par l'Esprit? Qui peut suivre Jésus dans la constance sinon par l'Esprit? Le peuple juif n'était pas un peuple spirituel, c'était le peuple de la terre, le peuple comme des grains de sable qui n'ont pas suivi Dieu dans le désert. Mais nous, le peuple de la lumière, le peuple des étoiles, nombreux comme les étoiles du ciel, le peuple spirituel, c'est en tant qu'êtres spirituels que nous marchons à la suite de Jésus, c'est-à-dire pas des hommes, pas des femmes, des êtres spirituels. Ce n'est pas par la chair qu'on suit le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par intérêt, ce n'est pas par obligation, ce n'est pas à cause de la chair, c'est par le Saint-Esprit qui est en nous, qui conduit notre esprit. Alors que sommes-nous? Qu'êtes-vous? Que sommes-nous? Longtemps, je me suis posé la question. Pourquoi Jésus dit de lui-même qu'il était fils de l'homme? Il n'y a aucun homme dans l'histoire. Il y a Marie, puis il y a Dieu. Eh bien, c'est parce qu'un non-initié, c'est un fils de femme, né de la chair, avec un père qui l'a engendré. Et vous, comment est-ce que vous vous considérez? En fait, ce n'est pas ce que vous pensez de vous qui est vrai, mais c'est ce que vous faites de vous qui montre ce que vous êtes. Homme, femme, fils d'homme ayant l'Église pour famille et Dieu pour père, ou fils de femme ayant votre famille, terrestre pour famille, avec toutes ses obligations, avec toutes ses choses. Qu'est-ce qui passe en premier? Plat de lentilles? Les fils de femme ont une religion qu'ils suivent, comme Amatia, dont je vous parlais un de ces matins à la réunion de prière, qui servait Dieu, mais sans enthousiasme, dans d'autres versions, avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué, dans une autre version, avec un cœur qui était partagé, 2 Chroniques 25:2. Il commença bien, mais il termina mal. Ça ne vous fait pas penser à certains chrétiens à qui Paul écrit en disant « Vous avez pourtant bien commencé par l'Esprit, pourquoi? Qui vous a détourné? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à continuer comme ça par la chair ?» Les fils de l'homme sont éternels. Un fils d'homme, c'est un esprit qui est devenu un esprit vivifiant. Il donne la vie, et pas seulement de façon animale. Une personne née de nouveau, elle est rendue mâle, c'est-à-dire homme. Savez-vous que Adam veut dire homme? Comme le premier Adam. Qui est le premier Adam? C'est Adam. Qui est le second Adam? C'est Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut que nous devenions? Des comme Jésus, des comme Dieu, c'est-à-dire des Adam, des vrais hommes. Pas des hommes comme le monde voit, mais des hommes comme Dieu les voit. C'est-à-dire des créateurs, c'est-à-dire des gens qui engendrent la paix, l'amour, la paix, la joie, et qui éliminent tout ce qui est mauvais. À la fin, Dieu éliminera tout ce qui est mauvais. On va regarder le Logion 22 maintenant. Non, on l'a déjà vu celui-là. Ah oui, c'est ça. Lorsque vous ferez le 2, 1, et lorsque vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et que vous ferez l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez le masculin et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas un mâle, et que le féminin ne soit pas une femelle, lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main, un pied dans votre pied, une icône dans votre icône, image, alors vous entrerez dans le royaume. Vous vous rappelez que je vous enseignais ces choses? C'est à nous de le faire. Lorsque vous ferez que l'extérieur soit comme l'intérieur, que le mâle soit comme la femelle, que la femelle soit comme le mâle, unique, eh bien, c'est à nous de le faire. Le mâle et la femelle, de faire de cela un. Et comme c'est Ève qui a fait la chose, qui a tout bouleversé, eh bien maintenant, et que Adam a suivi, il a fallu que ça soit l'inverse qui se produise, c'est-à-dire que ça soit le nouvel Adam qui commence l'œuvre et que Ève, c'est-à-dire l'épouse de Christ, continue cette œuvre. C'est pourquoi je dis le salut n'est pas gratuit, il a coûté très cher au deuxième Adam et il coûte cher aussi à Ève, à la véritable Ève, à la véritable épouse de Dieu. Dieu, par Jésus-Christ, nous a rachetés, mais il n'a pas seulement racheté notre âme, il a racheté dans le temps aussi notre corps, puisque nous croyons dans la résurrection du corps, mais pour le moment, ce corps n'est pas encore racheté. C'est en espérance qu'il est sauvé, oui ou non? Ça se trouve dans Romains chapitre 8, je crois verset 23. « Ce que nous avons à faire, notre âme lui appartient puisqu'il l'a racheté. Mais notre corps ne lui appartient pas puisqu'il ne l'a pas racheté. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre corps lui appartienne, que notre chair lui appartienne, que nos hormones lui appartiennent, que tout ce qui est, toutes nos pulsions lui appartiennent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le lui offrir. C'est dit aussi dans la Bible, mais ça n'est jamais enseigné comme ça. Nous devons le lui offrir. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Volontaire. Offrir notre corps en sacrifice vivant, c'est accepter que Dieu nous sanctifie lui-même. Les non-initiés, les fils de femmes, se sanctifient eux-mêmes. Ça ressemble, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que nous acceptions que Dieu nous lave par l'eau de la parole prêchée, et non pas seulement par l'eau de la parole prêchée, mais par l'eau de la parole vécue dans l'Église. Parce que la parole s'est incarnée de nos jours. Où est la parole? Dans toi, mon frère Nicolas. Dans moi. En vous. Qui vit en vous? Jésus. Qui est Jésus? La parole s'est incarnée. Et nous devons nous laisser laver par la parole incarnée dans l'Église. Sinon, c'est faux. Voilà ce que ça signifie, mes frères et sœurs. Cette union, cette unité entre le masculin et le féminin, entre le terrestre et le céleste. L'unité, l'union, l'harmonie en Jésus-Christ, dans l'Église, nulle part ailleurs. Et je vous rappelle que l'Église est communautaire. Jésus est l'époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Ô homme ! Peut-être qu'il y a des apôtres Pierre parmi nous. Ô homme ! Peux-tu te comporter comme une épouse ? J'ai pas dit comme un époux, comme une épouse. Peux-tu te comporter comme une épouse soumise, respectueuse, ne faisant pas honte à ton mari, servant avec plaisir? Oui, on peut être soumis à Dieu. On peut... Non, je vous parle de la vie de l'Église. Être soumis à Dieu qui est au ciel, ça c'est facile. La Bible nous dit que nous devons servir sur la terre comme on servira au ciel. C'est déjà maintenant qu'on est des épouses soumises, respectueuses, ne faisant pas honte à notre époux céleste, ici-bas sur terre, servant sur la terre, comme elle servira au ciel. Est-ce que vous êtes cette créature-là? Ni homme, si vous êtes une femme. Ni femme, si vous êtes une femme. Ne considérons plus ces choses. Rappelez-vous ce que j'ai prêché chez le frère Alexandre il n'y a pas longtemps au sujet du couple. Dans le Saint-Esprit, au service et en adoration devant le Créateur, Père de tous, voilà notre rôle d'épouse. Voilà notre rôle, notre côté féminin. Et pourtant il dit, je ferai de toi un mâle. Oui, c'était juste pour boucler le bec de Pierre, cette espèce de macho. Mais en réalité, il n'y a ni homme ni femme dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il voulait faire de Marie un mâle, c'est qu'il voulait qu'elle ne soit ni mâle ni femelle. Lorsque tu feras le mâle comme la femelle, tu feras la femelle comme le mâle. D'accord? La bonne nouvelle, vous voyez, n'offre pas un salut gratuit. C'est une hérésie. Le salut a coûté cher à Dieu. Il n'est pas gratuit. Il a coûté cher à Dieu. Sa vie sur la croix. Et s'il ne nous coûte rien, ben c'est pas juste. C'est pas juste. Vous devez faire le sacrifice de votre corps, c'est-à-dire de votre chair, c'est-à-dire de votre volonté, c'est-à-dire de vos instincts charnels, de vos hormones dictateurs. C'est cela, travailler avec crainte à notre salut. C'est cela. C'est offrir à Dieu ce sacrifice. Et pas seulement une fois en disant, oh, mais je l'ai fait déjà une fois. Oh, une fois, j'ai levé la main dans une réunion. Non. Maintenir ce sacrifice dans la mort. Parce que c'est un sacrifice qui est vivant qu'on doit mener à la mort. Et un sacrifice vivant, comme je vous le disais il n'y a pas longtemps, il faut vraiment le maintenir, parce que sinon, comme il est vivant, il peut s'en aller en courant. Se laisser attirer par Dieu pour devenir semblable à lui, qui est mâle, dans le sens créateur, pas dans la sexualité, mais dans sa fonction créatrice de père. Devenir ce que Dieu veut, et non pas ce que nous voudrions. Ce que nous voulons, nous, c'est être terrestre. C'est être humain. Dieu ne veut pas qu'on soit humain. Dieu veut qu'on soit Adam. Comme Jésus est Adam. Homme, vrai homme, selon Dieu, selon son cœur. Alors voyez, l'enseignement de Jésus, ça va bien plus loin que le message de repentance. Repentez-vous, c'est bien. Il nous parle, le message de Jésus, de transformation du tout au tout. Se repentir, se faire baptiser, ça c'est bon pour les chrétiens. Nous ne voulons pas être des chrétiens, on veut être des disciples de Jésus. Amen. Il y a une différence. La différence, elle réside en cela, c'est que de l'église de Jésus-Christ sortira une petite épouse. La petite épouse, c'est celle qui sera disciplinée. L'église restera sur terre. Elle sera sauvée, mais comme au travers du feu, les chrétiens. Eh bien, être chrétien, c'est se repentir, c'est se faire baptiser, c'est d'aller 3-4 fois par semaine au culte, c'est de ne pas écouter la musique du monde dans la voiture, c'est d'écouter que des cantiques. C'est, voilà, ça c'est des chrétiens. C'est génial, c'est joli. Avec des lois, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est super. Ils ont tous l'air tellement plus spirituels que nous. Mais dans la réalité, ils n'ont pas cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pour l'épouse, c'est la mort. Pour l'épouse, c'est mourir à soi-même. Pour l'épouse, c'est mourir à soi-même au service de Dieu dans l'Église. Renoncer, 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 obéir, soumission, 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 soumission et soumission. Soumission à qui? Soumission à quoi? À la parole de Dieu. Tout le monde dit, mais nous sommes soumis à la parole. Non, non. Je ne dis pas soumis à la parole de Dieu interprétée par des gens. Je dis soumis à la parole de Dieu qui est vécue par des gens. Ça, c'est autre chose. Parce que la parole, Dieu est amour. Et quand elle est vécue par des gens, c'est l'amour qui est vécu. Ça, c'est tout autre chose, d'être soumis à l'amour. Oh, mais c'est facile d'être soumis à l'amour, tout le monde est gentil. Non ! L'amour ne rend pas gentil. L'amour ne rend pas... Qu'est-ce que c'est cette histoire, l'amour rend gentil ? Toujours, je parlais avec un homme, il me disait, « Oh, mais c'est dur, l'idée de la semence du serpent, c'est dur, moi qui aime tellement les gens. » Je dis, « Quoi ? Quel amour ? Qu'est-ce que tu as comme amour pour les gens ?» Déjà, c'est très difficile d'être correct avec les gens que tu vois, que tu connais. Et puis en plus, tu me dis que tu aimes les gens, les Chinois, les gens que tu ne vois pas, loin, tout ça, les gens que tu vois juste 5 minutes, 10 minutes. C'est quoi aimer les gens? Je dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Je dis, c'est aimer. Aimer, c'est se donner pour eux. C'est se sacrifier pour eux. C'est que tout passe pour eux d'abord. Eh bien, se soumettre à la parole vécu par des gens, c'est autre chose que de se soumettre à la parole, interprétée par des gens. Dans les églises, la parole est interprétée. Dans la communauté, la parole est vécue. C'est-à-dire, c'est l'amour qui est manifesté. L'amour envers celui et celle qui commet des erreurs. C'est-à-dire un amour correctif, un amour qui encourage, un amour qui reprend, un amour qui corrige, un amour qui punit, un amour qui se réjouit, un amour qui s'amuse. L'amour. Si tu aimes ton gamin et que tu lui passes tout ce qu'il veut, c'est pas de l'amour. D'accord ? Pas l'amour. Rappelez-vous de ça. Soumission à la parole volontairement vécue par des gens dans le corps de Christ. C'est ça la véritable fonction que nous avons ici-bas sur cette terre qui fera, qui prouvera que nous sommes ni hommes ni femmes mais que nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit. Sinon, c'est du pipeau, c'est de la religion. C'est très joli, il y a besoin de la religion. En fait, la civilisation judéo-chrétienne, elle ne tient que par la religion. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, le résultat est pas mal. À part quelques guerres mondiales, à part la corruption, à part, enfin, si on fait le tableau, finalement, c'est une horreur. La civilisation judéo-chrétienne tenue par la religion, c'est une horreur. Et je comprends pourquoi tout le monde rouspète après la civilisation judéo-chrétienne, c'est une horreur. Ce que Dieu a dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous n'avez rien à faire avec ce monde. Vous êtes dans mon monde. Amen. Eh bien, on marche avec ces règles-là et pas les autres. Et ceux qui ne veulent pas marcher avec ces règles-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vendredi, je vous invite à écouter très attentivement le message qui vous sera donné. Il est sur Internet, il va être sur Internet, vous pouvez aller l'écouter sur Internet, mais je vous demande de venir l'écouter ensemble en tant que corps de Christ assemblé en Église, assemblé hors du monde pour un but. Vous pourrez l'écouter déjà, je pense, dès demain sur Internet, mais venez le voir, c'est une vidéo. Nous avons assisté, Michou, Nicolas et moi, à un culte extraordinaire chez le frère Lepicard, où il a prêché la parole d'une façon fantastique. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je lui ai demandé l'autorisation de le mettre sur Internet. Il m'a accordé cela. Je ne l'ai pas réécrit, il m'a donné l'autorisation. C'est magnifique. C'est un message extraordinaire, un message pour notre Église. Vous savez, je vous disais, la prophétesse est venue, elle a dit, il faudra dire à votre pasteur qu'il faut qu'il y ait un réveil dans l'Église, il faut qu'il y ait le souffle de l'Esprit. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas encore fait cette fameuse réunion de réveil de l'Esprit. Vous allez comprendre. Le réveil doit venir de Dieu et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre et ça va vous réjouir le cœur. Amen. Alors écoutez attentivement, prenez des notes, réécoutez cela. C'est d'une profondeur, c'est une merveille, c'est une perle. C'est vraiment inspiré par Dieu. Merci Seigneur. Amen. On se met debout et on glorifie le nom de Jésus. Les musiciens, approchez-vous, on va chanter. On va chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter ? Je porte dans mon cœur le 63. On l'a chanté déjà ? Oui, on l'a chanté déjà. C'est vrai, mais il est tellement beau. Allez, ça, le 54.
Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction. Aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus vous a aussi aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Ses amis, c'est ceux qui suivent Jésus.
C'est en aimant le premier que nous pouvons nous aimer tous les jours.
Ah, je vous mets à l'épreuve. Aimez le premier, étonnez-moi, aimez-moi le premier, étonnez-moi, montrez-moi votre amour, puisque vous êtes tellement rempli d'amour et que moi, je suis tellement rempli de haine et de méchanceté. Aimez-moi, montrez-moi, faites la preuve.
Oh, quelle joie de vivre ensemble. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Pour avancer dans le monde, il est vivant, il est ressuscité. Vous les uns et les autres, comme Jésus aussi vous a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns et les autres, comme Jésus aussi vous a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Amen. Merci Seigneur pour cette bonne réunion de ce soir. Veuille, mon Dieu, bénir ta parole dans nos cœurs, que nous puissions la réécouter avec le secours de ton esprit. Il y a des points qui peuvent peut-être sembler obscurs à certains. Eh bien, éclaire tout cela par ton esprit, que nous pouvons aussi en parler ensemble. Merci Jésus, parce que je ne suis pas loin, mais je suis près de mes frères et tu peux venir me parler, me poser des questions. Je te remercie pour tout cela. Veuille garder dans ta paix chacun de nos cœurs. Amen.